Alors ce matin, le message que j'ai pour vous, je l'ai intitulé « Victime ou vainqueur ?» Victime ou vainqueur ? Vous savez, devant les situations de la vie, on a toujours deux options. Et très souvent, on a des gens, quand vous les écoutez parler, et quand vous les voyez fonctionner, on a l'impression que c'est des victimes. On a l'impression qu'ils sont toujours, il y a toujours tout qui leur tombe sur la tête, rien ne va jamais bien, mais rien n'est jamais leur faute non plus. Voilà, il m'arrive ci, tu sais pas ce qu'on m'a fait, il y a ceci, il y a cela, on est victime. Ou bien quand il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On s'effondre, on dit « Ah, j'y arrive pas, je vais pas m'en sortir, on est une victime. » Mais je vais vous montrer que la parole de Dieu nous propose beaucoup plus que cet état de fait, et que nous sommes appelés non pas à être des victimes de ce qui se passe dans nos vies, non pas à être des gens qui s'écrasent ou qui sont écrasés, et non pas à être débordés ou dépassés par les circonstances, mais nous sommes appelés à être quoi? Vainqueurs, et même plus que vainqueurs. Et nous ne sommes pas appelés à être des gens qui subissent la vie, nous sommes appelés à être des gens qui provoquent ce qui se passe dans notre vie. Nous ne sommes pas appelés à être des gens qui sont seulement en train de réagir à leur vie, nous sommes appelés à être des gens qui agissent dans leur vie. Vous savez la différence entre agir et réagir? Réagir, ça veut dire qu'il y a une action et tu ne fais que d'y répondre. Tu réagis. Par contre, quand c'est toi qui agis, c'est toi qui donnes le ton, tu provoques une action. Et il y a une différence. Il y a une différence. Et trop souvent, qu'est-ce qu'on fait? Jour après jour, tous, on a nos petits défis quotidiens, on a les petites choses qui se présentent à nous, il peut y avoir des problèmes et des difficultés, mais très souvent, on se contente de réagir. C'est-à-dire qu'on va de situation en situation et juste on répond à la situation. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus pour nous. Parce que quand on ne fait que de réagir, on passe notre temps à essayer de re-régler toujours les mêmes choses et on passe notre temps et notre énergie à remettre debout ce qui est tombé par terre. Alors que le Seigneur nous appelle à beaucoup mieux que ça et à être les acteurs de notre vie et à agir, à nous donner le ton, à nous poser les actes, à nous donner la direction, à nous provoquer les situations, et c'est à nous de dire qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe ou pas dans notre vie. Et on va regarder un petit peu tout ça ensemble ce matin. Vous savez, à l'Institut biblique, je suis en train d'enseigner sur la foi et je peux pas vous dire comment ça m'édifie ce cours sur la foi. Et moi, je pensais faire autre chose, mais hier soir, quand j'ai cherché vraiment l'idée de Dieu, j'ai eu cette pensée à être victime ou vainqueur. J'ai dit, super, ça parle de foi. Ça ne parle pas que de foi. Mais vous savez, il y a vraiment une décision que nous devons prendre. On ne peut pas choisir toutes les circonstances de notre vie. Là, je suis d'accord avec vous. Il y a des choses qui arrivent, on ne les a pas choisies, et on ne peut rien y faire. Je veux dire, on ne peut pas les empêcher d'arriver. Par contre, ce qu'on peut choisir, c'est notre réaction. Et ça va déterminer l'issue des choses. Quand un problème se présente, il y a un moment où nous devons choisir et intervenir dessus. Soit tu es victime, donc tu laisses les choses couler et l'issue va être l'issue en général défavorable qui vient avec le problème, ou soit tu es vainqueur et tu vas contrer et tu vas changer l'issue des choses. Tu vas changer l'issue des choses. Et ça, c'est hyper très important. C'est pas très français, mais c'est pas grave. Et nous sommes appelés à être des vainqueurs, pas des victimes. Et l'une des grandes clés pour être un vainqueur plutôt qu'une victime, c'est d'ajuster notre regard. Ajuster notre regard. Et je vais vous montrer un exemple dans les Nombres. Nombres chapitre 13. Donc le peuple d'Israël est déjà sorti d'Égypte, il a déjà bien voyagé, il a déjà bien perdu son temps, a tourné en rond. Et voilà qu'ils arrivent à proximité du pays qui leur est promis et que Dieu leur donne. Et on voit ici au chapitre 13 de Nombres, au verset 1er, l'Éternel parle à Moïse et lui dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père et tous seront des principaux d'entre eux. » Donc ils arrivent là et puis Dieu leur dit « Envoie des espions. » Et qu'ils aillent regarder un petit peu le pays. Mais remarquez que Dieu leur dit « Le pays que je vous donne. » Mais ensuite, on a ici quelque chose d'intéressant. Au verset 26, donc les espions sont revenus, hein. Il dit au verset 25, « Ils furent de retour au bout de 40 jours. Et à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron, de toute l'assemblée d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, Les villes sont fortifiées, très grandes, et nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, et nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Ouh, la victime! Dieu dit, je te donne le pays, mais eux, ils voient que les gars sont plus forts qu'eux. On a un homme là, Caleb, qui dit, allons-y maintenant, prenons le pays qui nous a été donné. Et ici, les autres témoins, on peut dire, ou les autres espions, nous ne pouvons pas monter, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru est un pays qui dévore ses habitants. Ce que nous avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu des géants, enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Moi, il y a un truc ici quand même qui me frappe. Bon, nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Bon, pourquoi pas. Mais comment ils peuvent savoir qu'ils sont des sauterelles dans les yeux des autres? Donc, ils ont une mentalité qui est déjà complètement pourrie. Ils disent, oui, les gars sont trop grands, on est trop petits et on est comme des sauterelles pour eux. Je pense pas qu'ils ont été leur poser la question. Et combien souvent devant une situation on est là à se dire, ah non mais de toute façon je peux pas faire ça, ou bien oui de toute façon j'aurai pas gain de cause, de toute façon on va pas m'écouter. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu es une sauterelle dans les yeux de l'ennemi? Qui t'a dit qu'on va pas t'écouter? Qui t'a dit que tu vas pas obtenir ce que tu es venu chercher? Et on se fait ce qu'on appelle des films, et il faut arrêter de se faire des films. Il faut arrêter de se faire des films et se positionner en vainqueur. Et regardons un petit peu plus loin, au chapitre 14, au verset 4, non, verset 6, pardon. Parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Nombre 14, 7. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant les enfants d'Israël. Il y a plusieurs choses ici. Déjà, on a deux rapports différents. On a un rapport, une vision, on peut dire, de défaite, où ils disent, ben, de toute façon, on ne peut pas y aller parce qu'on ne gagnera pas. Et les autres qui ont une vision de victoire, en disant, si Dieu nous le donne, on l'aura. Si Dieu a parlé, ça s'accomplira. Que les gars soient grands ou petits, ce n'est pas notre problème. Mais si l'Éternel nous est favorable, on entrera dans ce pays, on le prendra. Mais ce qui est étonnant, c'est que les deux personnes là, Josué et Caleb, viennent et leur disent, mais attendez, allons-y, si Dieu nous est favorable, on prendra le pays, on sera victorieux. Les gens veulent les lapider pour ça. Les gens préfèrent entendre un rapport de défaite, de pauvreté, de faiblesse, d'impossibilité, de tristesse, de lien et de tout ce que vous voulez, et plutôt que d'entendre un rapport de victoire. Ils veulent les lapider parce qu'ils parlent de la victoire. Ils veulent les lapider parce qu'ils ont choisi de croire la parole de Dieu. Non mais c'est quand même un peu... Et là, c'est clairement la disposition du cœur d'une victime. Une victime, elle aime pas qu'on lui dise « tu peux sortir de tes problèmes ». Elle aime pas qu'on lui dise que Christ a déjà payé à la croix. La victime, elle aime qu'on lui dise « oh mon pauvre petit, oh là là, oh quel malheur qui t'arrive. Oh et puis c'est vrai, la vie est tellement dure. Hein. Ah ouais, c'est dur, hein. C'est comme ça, c'est vrai. Hein. Oh, t'as pas de chance. Hein. C'est vrai que tu peux rien faire, qu'est-ce que tu veux faire? On est tellement faible devant le monde. » Et vous entendez des gens qui racontent des trucs comme ça, et des chrétiens qui disent des trucs comme ça, et tout le monde applaudit. Alléluia! Et quand vous venez et que vous prêchez la foi, on dit, tu te prends pour qui toi? Je me prends pour qui? Je me prends pour qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. Je suis héritier de la promesse. Moi quand j'ai lu ça, franchement, j'ai dit, mais attends, quel rapport allez-vous croire? Quel rapport allons-nous croire? Devant une situation, devant ce qui se passe dans nos vies, qu'est-ce que tu préfères croire? Est-ce que tu vas plus facilement croire que c'est pas possible et que tu peux rien y faire et que tant pis, ou que de toute façon ça passera? Ou bien est-ce que tu vas oser croire la parole de Dieu? Est-ce que tu vas oser te ranger derrière la parole et dire, si Dieu a dit ça, j'aurai la victoire? Si Dieu a dit, j'ai pas besoin de passer par cette situation-là, qu'est-ce que tu vas choisir? Qu'est-ce que tu vas choisir? Les gens voulaient les lapider, mais qu'est-ce que Dieu a fait? A remarqué aussi, la gloire de l'Éternel apparut sur la tente devant tous les enfants d'Israël. Dieu est venu confirmer sa parole. Dieu est venu dire, attends, ils allaient se faire lapider et Dieu manifeste sa gloire à ce moment-là pour montrer, eh oh, c'est moi, je suis là, je viens attester, j'aime leur démarche de foi, j'aime leur démarche, j'aime leur regard parce qu'ils ont adopté mon regard. Et devant les situations, on a besoin d'adopter le regard de Dieu. Et le regard de Dieu, comment on fait pour l'avoir de plus en plus? C'est en regardant comment Dieu regarde dans sa parole. Et en apprenant à écouter notre esprit plus que notre âme. Vous savez, il y a une chose très 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 grave dans la parole, c'est ce qu'on appelle l'incrédulité. L'incrédulité. Et ça empêche Dieu d'agir. Ça empêche Dieu d'agir. Donc quand tu es devant la situation et que tu mets en victime, tu es en train de te couper de la solution divine qui était préparée pour toi. Parce que l'incrédulité, le doute, les paroles négatives vont empêcher Dieu d'intervenir. Vont empêcher Dieu d'intervenir. Vous savez, Jésus, à un moment, il a dit qu'il n'a rien pu faire dans une ville à cause de l'incrédulité des gens. Et peut-être que les gens aussi disaient, mais il se prend pour qui celui-là? On l'a vu grandir là, et maintenant il vient, il veut faire des miracles. Mais ils n'ont pas su discerner que Jésus était même la parole faite chair. Et personne ne peut résister à la parole de Dieu. Personne, personne, personne. Si vous restez assis là à pleurer sur ce que vous avez constaté avec vos yeux, comme ces témoins, ils ont constaté avec leurs yeux certainement que les gens étaient grands, les habitants étaient forts et nombreux. Et ils sont assis là et ils ont commencé à se dire, bah tant pis, c'est foutu. Alors que Dieu avait déjà promis le pays et Dieu leur avait déjà donné. Ils avaient juste à entrer en possession de ce que Dieu leur avait déjà donné. Mais si tu t'assieds là, eh bien c'est terminé pour toi. Hein. C'est terminé pour toi. Et si on se contente de regarder avec nos yeux et d'analyser avec notre intelligence, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On va rester dans ce qu'on appelle la chair, qui ne vit que par ses sens. On va dire, parce que je sens que c'est pas comme ça, eh bien je vais pas croire Dieu, je vais me contenter d'être là et de dire, ben, les situations sont pas favorables, les circonstances sont pas bonnes, je peux rien faire, ça va pas, c'est bloqué, je peux pas bouger. Voilà. Et c'est pas ça qui est prévu pour nous, c'est pas ça. Tu sais, il y a même des gens qui sont un peu... Il y a des gens qui aiment rester dans leur position de victime. Parce que comme ça, ils sont aux petits soins, on est toujours là à essayer de les cajoler, à prendre même parfois pitié d'eux. Il y a des gens qui n'ont même pas envie de sortir de cette situation-là. Ils aiment être là, raconter leurs petits problèmes, être là, et à faire comme s'ils n'étaient pas bien, mais au fond d'eux-mêmes, c'est un peu bizarre. Le cœur de l'homme est bizarre. Il est vraiment bizarre. Il y a des gens qui ne veulent même pas sortir de leurs problèmes. Parce qu'ils aiment bien qu'on les plaigne, qu'ils aient toujours une petite histoire à raconter, qu'on doit prier pour eux à chaque fois, etc., etc. C'est vraiment pourri comme situation. C'est n'importe quoi. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à ça. Dieu nous a appelés à être vainqueurs, à être victorieux. La fatalité. Il y a une vision de fatalité. On dit oui, le pays est bon, mais on ne peut pas y aller parce que les autres sont trop forts. Vous allez toujours trouver un géant pour vous dissuader d'entrer dans ce que Dieu a mis devant vous. Ça, je peux vous l'assurer. Je vous le garantis. Je peux signer, je vous le garantis, je le certifie sans problème. Toujours il y aura un géant. Toujours il y aura quelqu'un de trop grand. C'est pas forcément une personne, mais vous verrez, il y aura toujours un géant. Toujours, toujours, toujours. À chaque fois que vous êtes sur le point d'entrer dans une bénédiction de Dieu pour vous, il y a un géant qui est là. Et maintenant, il faut choisir. Est-ce que je m'assieds et je dis « Ouais, mais c'est vrai, c'est bon hein, ce que Dieu a mis devant moi, mais il y a un géant, je peux pas y aller. » Ou est-ce que je parle ce que je sais être vrai en me basant sur ce que Dieu a dit? Je dis « Mais si Dieu me l'a donné, c'est à moi et je le prends. Je le prends et je serai victorieux. » Faut choisir. Quel regard, changer notre regard sur les choses. On a un autre exemple maintenant dans le Nouveau Testament, si vous voulez, où Paul nous montre vraiment un contraste aussi en nous disant « C'est vrai, tu peux avoir des problèmes. » Mais Paul savait garder ce que j'ai tendance à appeler un état d'esprit positif. 2 Corinthiens au chapitre 4. Paul dit par exemple à partir du verset 8 « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des problèmes. Paul lui-même a eu des problèmes. Mais dans le problème, il voit, ok, il y a quelque chose qui ne va pas, mais il y a encore des choses qui vont bien. Et parfois, quand on écoute les gens parler, et même les chrétiens parler, et on a l'impression que rien ne va. Et moi, des fois, j'ai envie de leur dire, arrête-toi 2 minutes et regarde qu'est-ce qui va dans ta vie. Et maintenant, attache plus d'importance à ce qui va bien qu'à ce qui ne va pas. Attache plus d'importance à ce qui est encore en bon état qu'à ce qui est cassé. Attache plus d'importance aux choses positives, même s'il y en a très peu, qu'à ce qui ne va pas. Parce que c'est comme l'histoire du verre à moitié vide et à moitié plein, hein, tout simplement. Je suis pas juste en train de vous exhorter à l'optimisme, hein, mais il y a des choses qui sont là dans la parole. Vous savez, des gens, le verre, il est toujours à moitié vide. Mais même quand il est à moitié vide, concentre-toi sur le fait qu'il est à moitié plein. Et attache plus d'importance à ce que tu as qu'à ce que tu n'as pas. Et le faire, qu'est-ce que ça va faire dans notre vie? Quand on va commencer à attacher plus d'importance à ce que nous avons déjà et à remercier Dieu pour ça, je vais vous assurer que la reconnaissance, ça c'est un sujet aussi, la reconnaissance va vous qualifier pour obtenir plus et ce que vous n'avez pas encore. Mais si vous êtes là tout le temps à vous lamenter et à pleurer sur ce que vous n'avez pas encore, eh bien vous risquez de l'attendre encore très longtemps parce que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous vous rappelez, le Seigneur a dit, celui qui est fidèle dans peu, je lui donnerai beaucoup. Si tu n'es pas capable d'être reconnaissant et de reconnaître Dieu dans ce que tu as déjà et de le remercier pour ça, comment tu vas le remercier et le reconnaître pour beaucoup? Tu ne seras jamais content, jamais satisfait. Jamais satisfait. D'ailleurs, l'homme, par nature, n'est jamais satisfait. Si vous avez vu ça, à chaque fois, quand les gens convoitent quelque chose, finalement, ils l'obtiennent, mais ils ne sont toujours pas contents. Maintenant, il faut autre chose. Il faut de nouveau autre chose et puis on l'a. Parfois c'est voilà, j'ai envie de m'acheter un gros 4x4 et bah, une fois qu'on l'a acheté, 2 jours après, bah, on est de nouveau plus content. Maintenant on a envie de changer de maison, on veut une plus grande maison. Et maintenant qu'on a cette grande maison, on n'est toujours pas content. On dit ah, il faut que je rajoute une piscine, etc., etc. On n'est jamais, jamais content. L'homme n'est jamais content. Mais le problème qui se passe, c'est que non seulement il n'est pas content et il veut plus, vouloir plus, c'est une très bonne chose. Mais le problème, c'est que souvent, les hommes veulent plus parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Alors que nous pouvons, et ça c'est une bénédiction de Dieu, être satisfaits pleinement de ce que nous avons, même si ce n'est pas encore le top du top, mais nous sommes satisfaits et tout en même temps, nous désirons davantage parce que nous savons que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous espérons et pensons. Donc, je suis satisfait, je bénis Dieu pour ce que j'ai et aussi je me porte vers davantage. Mais on n'est pas en train de courir après quelque chose, hein, tout le temps. Alors, ici, de Corinthiens 4, il nous montre que oui, il y a des problèmes, oui, il y a des situations, mais on n'est pas encore au bout, c'est pas encore terminé. Et ça, c'est une attitude qui est bonne. C'est l'attitude d'un vainqueur. Il n'est pas en victime, là. Il n'est pas en train de dire, ouais, on est pressé de toute manière et on va finir par être écrasé. Non, il dit, ok, pressé de toute manière, mais pas à l'extrémité. Ok, il y a de la détresse, mais on ne désespère pas. Donc là, c'est à ce moment-là qu'il faut choisir d'être victime ou vainqueur. La chose se présente à toi. Le problème, la détresse, n'importe. Te présente, c'est là que tu choisis. Soit je me laisse emporter dans la détresse, ou soit je dis, ah, il y a la détresse. Bon, ok, la situation est là, mais je vais agir. Je dis, il y a la détresse, mais je ne suis pas encore dans le désespoir. Et je commence maintenant à chercher la parole, à développer ma foi et à prendre la démarche. On va regarder brièvement ensemble pour que la situation change. Et je deviens le vainqueur de la situation et pas la victime. Paul ici voit davantage ce qui est en ordre que ce qui est en désordre. Et au verset 13, il dit, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous faisons quoi? Que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi et nous fera paraître avec lui en sa présence. Donc là, Paul nous montre une clé, l'esprit de foi. L'esprit de foi. L'esprit de foi, alors ce n'est pas un esprit au sens que ce serait un... comme un esprit, comme un ange ou comme un démon ou comme le Saint-Esprit. L'esprit de foi, c'est une mentalité de foi. Et cette mentalité de foi nous fait parler ce que nous croyons. Et cette mentalité de foi fait que même dans les difficultés, je ne me laisse pas prendre dans le cercle vicieux de la difficulté, je reste dans la mentalité de la foi. Je dis, ok, il y a le problème, mais ma mentalité, elle est programmée pour la foi et elle demeure dans la foi. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il va parler aussi. Il va parler. je crois et je parle. Romains 10, versets 9 à 10, déclare que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, et c'est valable pour tous les domaines de nos vies. Donc je crois et je parle, je crois et je parle. Et c'est comme ça que tu te mets en vainqueur dans la situation. La victime, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle subit la situation, elle se tait, elle attend que ça se passe et elle en souffre, point final. Le vainqueur, la situation arrive, il se positionne, il dit non, je suis vainqueur, et ensuite il commence à parler ce qu'il croit. Et il va entrer dans la réalisation de ce qu'il dit. C'est exactement ce qu'il nous dit ici, et au verset 16, il dit « Nous ne perdons pas courage, même si l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Donc là, Paul nous montre qu'il regarde davantage à ce qu'il ne voit pas. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas influencer par ses sens. Il ne se laisse pas influencer par ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il ressent. Il se laisse influencer par l'invisible. En fait, par ce que Dieu dit. Par ce que Dieu dit. Alors, la victime, c'est quelqu'un qui est dans une attitude, qui est dans une position, dans un langage qui n'est bien sûr pas celui de la foi. Qui est simplement de constater que ça ne va pas et qui même bien souvent va dramatiser la chose et va encore empirer la situation. La victime retient toujours le pire dans les situations. Quelqu'un qui est une victime va toujours dire ça va pas, j'ai pas ci, c'est pas bon, j'ai eu tel problème. Il voit rien, il voit que ce qui ne va pas, il voit que ce qui n'est pas bon. La victime est impuissante. De toute façon, je peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas. La victime est l'ami de la fatalité. La fatalité. Ouais, mais c'est comme ça. C'est, je sais pas, c'est le destin. Ou bien, il y a des gens qui disent ça. Hein. Si tu sais, moi, de toute façon, bon, je suis né comme ça. Dans ma famille, c'est comme ça. On a toujours été pauvres, ou bien on a toujours été peu éduqués, ou bien on n'a jamais rien vécu de bon. C'est pas ça, c'est la victime. Et la victime, forcément, bah, va finir dans la souffrance. On utilise cette image, enfin ce mot victime, hein, quand il y a un accident. On dit que quelqu'un est victime d'un accident. Donc ça veut dire que la personne, bon, elle a été bien sûr forcément surprise, parce qu'un accident c'est toujours quelque chose à quoi on ne s'attend pas. Et souvent il y a des blessures. Et très souvent ce qui fait que les gens restent dans une position de victime, c'est qu'ils ont été blessés. Et ils restent sans arrêt en train de tourner autour de leurs blessures. Mais parce qu'une fois, peut-être une personne a été blessée, maintenant à chaque fois, eh ben, elle devient, d'ailleurs on appelle ça parfois des écorchés vifs, hein, comme on dit, je ne sais pas si vous connaissez cette expression. C'est-à-dire, c'est des gens, au moindre petit truc, ça y est, quoi, ils partent en, voilà, ils s'énervent, ils débloquent quasiment. Ils sont hyper sensibles à tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont une blessure et ils sont là à tourner autour de leur blessure. Et ils n'en sont pas guéris, et malheureusement, parfois, ils ne veulent même pas en guérir, et c'est ce qui est vraiment triste. Mais c'est ça, il y a des blessures, et ces gens-là sont seulement dirigés par leur âme. C'est-à-dire qu'ils sont juste dirigés par leurs sentiments, par ce qu'ils ressentent, par ce qu'ils sentent ou ce qu'ils ne sentent pas. Et ils portent souvent les fardeaux eux-mêmes aussi. La victime porte ses fardeaux elle-même. Et c'est quelqu'un qui, finalement, est en train d'évoluer dans une vie médiocre. Une vie médiocre, et on attend juste soit la mort ou soit d'aller au ciel quand on est un peu chrétien. Mais ces gens-là, ils n'ont pas d'objectif dans la vie, ils n'ont pas envie de faire un impact, ils sont là et voilà. De toute façon, ça va jamais, rien n'est jamais favorable. Voilà, ça c'est la victime. Quand vous entendez des expressions du style « Oh, de toute façon, tu sais, j'ai déjà vu tellement de choses » ou bien « Tu sais, de toute façon, on peut rien faire » bien, tu peux toujours essayer, mais ça revient au même, ou des choses comme ça. Qu'une fois on soit un peu découragé et qu'on puisse dire des choses, bon, ça nous arrive à tous, mais à un moment il faut se ressaisir et se repositionner dans la victoire. Mais vous avez des gens qui sans arrêt vous sortent les mêmes choses et qui sont toujours, qu'on aurait dit, démoralisés. Ils voient même plus qu'il y a une possibilité d'avenir. Des fois on se demande même qu'est-ce qu'ils ont fait du Seigneur, parce qu'il y a des chrétiens qui sont comme ça. Et ça, c'est dommage, c'est triste, parce que nous sommes appelés à être quoi? Des vainqueurs, et plus que vainqueurs. Le vainqueur, c'est quelqu'un qui est dans une position, dans une attitude, et qui adopte un langage de foi. Le vainqueur, il parle la foi. Le vainqueur, il se tient dans la foi. Donc le vainqueur, il n'est pas dirigé par son âme, il est dirigé par son esprit. Je vous rappelle que c'est dans notre esprit que Dieu communique avec nous. Et dans notre esprit, nous avons la vie divine. Donc le vainqueur, même si ses yeux voient des choses, même si son âme peut ressentir des choses, il ne s'occupe pas. Il ne se fie pas à ce qui se passe dans son âme, il se fie à ce qui se passe dans son esprit. Et maintenant, ce qui est dans son esprit, comment il fait pour l'activer ? Eh bien, il le parle, il le déclare et il amène son âme à s'assujettir à ce qui est là dans son esprit. Le vainqueur, c'est quelqu'un qui retient ce qui va bien. C'est quelqu'un qui sait regarder ce qui va dans une situation. Peut-être même s'il y a un groupe de personnes, tout le monde peut dire « Ah, on est coincé, ça va pas, on est bloqué, tout ça. » Il va trouver le petit truc pour être positif. Et d'ailleurs, on va lui dire « Mais toi, tu vois toujours... tu trouves toujours un truc de bien. » Et c'est une bonne chose. Le vainqueur, il est capable de voir ce qui va bien, même au milieu d'un amas de choses qui ne vont pas. Et d'y accorder de l'importance. Le vainqueur, il agit en responsable. La victime, c'est toujours « c'est pas ma faute, j'y peux rien, c'est comme ça ». Le vainqueur, il dit « non, je suis au contrôle de ma vie, parce que Dieu m'a mis en autorité dans ma vie ». Donc il agit en responsable. Ça ne veut pas dire qu'il faut assumer et dire « oui, s'il y a un problème, c'est de ma faute ». Non, c'est de dire « le problème, il est là, maintenant l'issue, c'est ma responsabilité ». Un responsable, c'est quelqu'un qui est capable, quand il y a un problème, de faire ce qu'il convient de faire pour sortir du problème. Et ça, même quand vous parlez dans un contexte quelconque, même dans une entreprise, le responsable, en général, c'est celui, il y a un problème, on l'appelle, parce qu'il est là pour prendre la décision qui va résoudre le problème. Mais dans ta vie, tu dois être responsable. C'est-à-dire que quand il y a une situation, tu dois pouvoir intervenir pour sortir de la situation, sortir de la crise. Le vainqueur, il change ses circonstances par sa foi. Et même s'il y a des problèmes qui arrivent, il se relève à chaque fois. Parce qu'il s'appuie sur ce que Dieu dit et il a appris et il sait déposer ses fardeaux sur le Seigneur. Et plus que de savoir les déposer, en fait, il sait reconnaître, croire et proclamer que Jésus les a déjà pris. Donc quand le fardeau arrive, il ne se laisse pas charger et dépasser par le fardeau, il déclare. Il dit, ce fardeau-là, il a déjà été pris par Jésus. Il a déjà été pris par Jésus et il est dans la foi. Dans la foi. Et forcément, le vainqueur, du coup, il vit une vie épanouie. C'est un conquérant, il a une vision, il a des objectifs dans la vie. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas bloqué à chaque fois qu'il y a un problème qui arrive. C'est quelqu'un qui peut se projeter, parce qu'il sait. Et que s'il y a un problème, eh ben, il va les écarter. Parce qu'il prend position et maintenant il peut faire des projets, il peut avoir une vision. Et si vous ne le savez pas, je vous apprends que Dieu a une vision pour chacune de nos vies et pour nous ensemble aussi. Mais cette vision ne s'accomplira que si nous l'épousons, si nous devenons le porteur de cette vision et si nous nous mettons en marche pour l'accomplissement de cette vision. Mais pour pouvoir le faire, il faut apprendre déjà à se décoller et à prendre de la distance par rapport aux petits problèmes du quotidien et marcher dans la foi. Dans la foi. Ok ? Alors, en parlant de l'appel de Dieu, on va regarder plusieurs réactions de quelques personnes à l'appel de Dieu. Plusieurs réactions. On va regarder dans Juges, chapitre 6. Juges 6, verset 11. Bien sûr, il est question de Gédéon. Juges 6, 11. Il est dit : Puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébin d'Orphra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer, Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ça c'est le regard de Dieu sur Gédéon. Vous savez, Gédéon c'était un jeune homme d'une petite famille dans un petit coin de son pays. Et qu'est-ce qu'il fait? Il bat le froment pour le mettre à l'abri de Madian. Madian c'était leur ennemi. Et certainement qu'ils étaient un peu dans la crainte, puisque s'ils cachent les trucs, ils se disent que tout le temps on va se faire piller. Donc il ne devait pas y avoir beaucoup de foi chez ces gens-là. Mais l'Éternel lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et j'y étais pas, mais je me demande par moments si Gédéon ne s'est pas retourné pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un à côté ou derrière lui. Parce que Gédéon n'a pas pris ça pour lui, hein. Carrément pas. Et juste après, il dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont donc les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne s'est pas fait monter hors d'Égypte? Il n'y a pas un brin de foi là-dedans. Hein. Et maintenant, en plus, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Mais le Seigneur, il est fort quand même parce qu'il ne se laisse pas démonter. Hein. Verset 14, l'Éternel se tourne vers lui et lui dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais il continue à discuter. Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit de la maison de mon père. Et l'Éternel dit, moi je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Et Gédéon, il continue encore à discuter. Bon, là il commence à dire, bon, si t'insistes, mais quand même, donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui me parles. Et il va avoir son signe. En passant, le signe, c'est plus la manière dont Dieu se révèle à nous dans le Nouveau Testament. C'était vraiment très spécifique à l'Ancien Testament, puisqu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit dans leur esprit pour témoigner. Et parfois, les signes, ça peut être dangereux. Ça peut être un moyen, mais ne jouez pas trop avec ça, parce que ça peut être dangereux. Hein, tu dis, s'il pleut ce soir, je dois me marier avec une telle, s'il ne pleut pas, c'est telle autre. Ça peut être vraiment dangereux. Ça peut être vraiment, vraiment très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Il vaut mieux apprendre à écouter Dieu qui parle dans notre esprit. Mais bon, ça c'était une parenthèse. Vous voyez, Gédéon, Dieu lui parle de la manière dont il le voit. Il dit, vaillant héros. Et Gédéon, il dit, ah ben, ça va bien toi, avec tes histoires là, Dieu c'est bon quoi. L'Éternel, les vieux, ils nous racontent tous les jours leurs miracles, mais moi j'ai rien vu. Et tout ce que je vois, c'est que les ennemis, pour l'instant, ils dominent sur nous. Et souvent on est comme ça aussi. Et beaucoup de gens sont comme ça. Tu viens, tu leur dis une parole de Dieu, ils disent, ouais, mais tu vois pas par quelle situation je passe. Ouais, c'est bien beau de me raconter que à la campagne de miracle, là, les gens se sont levés, mais moi, je suis toujours dans mes situations là. Hein. Ou bien on se rappelle, ah oui, il y a 15 ans, c'était bien. Il y avait la présence de Dieu. Il y a 15 ans, j'ai reçu le Saint-Esprit. Il y a 15 ans, j'ai été guéri une fois d'un petit rhume. Mais depuis, je suis malade tout le temps. Mais Dieu ne se laisse pas démonter, il insiste encore avec sa parole. Il dit non, vas-y avec la force que tu as, et moi-même je suis avec toi. Gédéon, là, il est plus victime que vainqueur. Il regarde sa situation et il dit... Moi, ce qui m'amuse aussi, ce qui m'étonne aussi, c'est que quand même, l'ange de l'Éternel, en passant, c'est Jésus qui est décrit dans le Testament comme l'ange de l'Éternel, c'est qui fait des apparitions pour se révéler, mais... L'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, et Gédéon, ça ne l'impressionne pas plus que ça. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu me veux quoi? C'est vraiment... Comment le défend? On peut être endurci. Et donc Gédéon, il était un vaillant héros dans les yeux de Dieu, mais à ses yeux, c'était pas encore ça. Et Gédéon, il a besoin de faire des ajustements. Mais gloire à Dieu, il a su s'ajuster et se ranger du côté de ce que Dieu disait, puisque par la suite, il a quand même accompli, il a obtenu des victoires, et il a accompli des choses avec le Seigneur. Mais au moment où Dieu l'a appelé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a contesté, il a regardé ses réalités. Et ça, c'est la victime, c'est pas le vainqueur. Quand Dieu nous parle, quand on est face à la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on discute avec la parole? Ou bien est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on l'accepte? Exode, chapitre 3, on va trouver un grand, grand patriarche, un grand leader, Moïse. Exode chapitre 3, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu, Horeb. L'ange de l'Éternel, verset 2, lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, voici le buisson était tout en feu et ne se consumait point. Et Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse! Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Donc là, bien sûr, le peuple était en captivité à ce moment-là. Il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, verset 11, mais qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Lui aussi, Dieu lui dit ce qu'il va faire. Ouais, mais qui suis-je? Je suis qui? Verset 12, Dieu lui dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Et Moïse dit à Dieu, j'irai vers Israël et leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est ton nom, que répondrai-je? Dieu répondit, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël. Donc là, Dieu envoie Moïse avec des paroles à dire au peuple. Et au chapitre 4, verset 1, Moïse répond et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. Là encore, Dieu lui parle, Dieu l'envoie, Dieu lui donne donc l'autorité, parce que quand Dieu vous parle et vous envoie quelque part, vous avez l'autorité de le faire, mais il dit, mais ils ne vont pas me croire, ils ne m'écouteront pas, ils croiront pas que tu m'as apparu. Autrement dit, ils vont me prendre pour un cinglé, ils vont croire que je me fais des films et c'est même pas la peine. Alors, on rigole, mais on est combien de fois on n'a pas fait des réponses comme ça au Seigneur ? Mais là, le Seigneur va lui montrer quelque chose aussi. Il va lui dire, verset 2, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Et il répondit, « Une verge. » L'Éternel lui dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, elle devint un serpent. Et Moïse fuyait devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Donc là, Dieu lui donne aussi un signe, une puissance pour qu'il soit convaincu que la puissance de Dieu est avec lui. Et remarquez que Dieu ne lui a pas dit qu'il te manque quelque chose, Dieu lui a dit qu'est-ce qu'il y a dans ta main ? C'est-à-dire qu'est-ce que tu as déjà ? Et Dieu utilise ce qu'il avait déjà. Il ne lui dit pas tu as besoin de telle et telle chose, il dit avec ce que tu as, tu peux y aller. Pourquoi ? Parce que tu as ma parole. Tu as ma parole. Tu as ma parole. Donc même si on n'a pas des gros équipements pour faire certaines choses, si tu as la parole de Dieu, même si tu as les poches un peu vides pour faire certaines choses, si tu as la parole de Dieu, tu as tout ce qu'il te faut. Une parole de Dieu suffit. C'est que la parole de Dieu est créatrice. Et si Dieu t'a parlé, même si tu n'as rien, Dieu va créer la ressource parce qu'il a parlé. Et quand il parle, il agit. Il agit et sa parole est créatrice. Ensuite, au verset 10... Moïse, il n'a pas encore fini de discuter malgré ça. Moïse dit à l'Éternel, verset 10, « Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier. » Ah, le fataliste. « Ni même depuis que tu parles à ton serviteur, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a donc fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel ? Va, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Et verset 13, Moïse maintenant il révèle enfin sa pensée profonde, il dit « Seigneur, envoie qui tu voudras. » Autrement dit, « Fous-moi la paix, va voir ailleurs si j'y suis. » Il faut être clair. Et là, forcément, la colère de l'Éternel s'enflamme. Et il dit « N'y a-t-il pas ton frère ?» Donc finalement, là Moïse, il a quand même un petit peu perdu une partie de son appel que Dieu était obligé de transférer sur quelqu'un d'autre, donc son frère, et finalement ils ont fonctionné ensemble. Mais ce n'était pas l'idée parfaite de Dieu au départ. Et comment ils discutent ? Comment on discute devant la parole de Dieu ? Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Pas bon du tout. Parce que si Dieu a parlé, les ressources sont disponibles pour l'accomplissement de ce qu'il a dit. Donc arrêtons de discuter, arrêtons de jouer les victimes. Ouais, je sais pas parler. Depuis que je suis tout petit, ça date pas d'hier. Et alors pourquoi ça changerait pas aujourd'hui ? Si Dieu t'a parlé, ce qui peut dater depuis ta naissance, ça peut changer aujourd'hui, parce qu'il a parlé. Une parole de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui disait ça, et il a tellement raison, il dit « Une seule parole de Dieu peut changer toute ta vie pour toujours. » Et d'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible avec un bel exemple de foi, où cet homme militaire disait « Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. » Il suffit d'un mot de Dieu. D'un mot de Dieu. Genèse 12, on a maintenant Abraham, qu'on appelle le père de la foi. Et là, Dieu se révèle à Abraham et lui fait des promesses. Il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et là, qu'est-ce qu'il est dit ? Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham, il discute pas. Dieu lui dit quelque chose, qu'est-ce qu'Abraham fait ? Il ramasse ses clics et ses claques, il part. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et plus tard, si on lit la parole de Dieu, même dans les Hébreux, même dans Romains 4, etc., il est rendu témoignage à la foi d'Abraham. Il dit qu'Abraham crut à Dieu et ça lui fut imputé à justice. D'ailleurs, Abraham est maintenant appelé le père de la foi, le père des croyants. Pourquoi ? Parce qu'Abraham, il n'a pas cherché à discuter, à tergiverser. Je ne sais pas comment c'était dans son âme. Peut-être que dans son âme, il se demandait aussi. Peut-être qu'il s'est dit, le pays que tu me montreras, c'est où ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que je vais faire ? On ne le sait pas, parce qu'il ne s'en est pas occupé. Ce qui était important, c'était ce que Dieu avait dit. Il a agi sur la parole de Dieu. Point final. Ok ? Josué, au chapitre 1er. Dieu lui donne son appel après la mort de Moïse, etc. Il dit, voilà, tu vas amener le peuple dans le pays que j'ai prévu. Il lui dit de se fortifier, de prendre courage, de s'attacher au livre de la loi pour le pratiquer. Et verset 9, il dit, ne tâche pas de donner cette ordre, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et verset 10, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Voilà. Donc Josué, tout de suite après que Dieu lui parlait, il commence à travailler, il commence à donner des ordres, il commence à agir. Josué ne discute pas. On a l'appel et tout de suite après Josué qui commence à donner des ordres aux officiers en leur disant de faire ce que Dieu lui a montré qu'il devait faire. Et ça continue. Josué, il est directement entré dans ce que Dieu l'a conduit à faire. Plus loin dans 1 Samuel... Ceci pour vous montrer qu'il est possible aussi d'obéir directement à Dieu. On n'est pas obligé de discuter d'abord, même si Dieu est patient, heureusement pour nous. Mais il vaut mieux obéir promptement à la parole de Dieu. 1 Samuel au chapitre 3, on a l'appel de Samuel. Vous devez connaître un peu cette histoire. Samuel qui était au service d'Élie. Et il habitait donc dans la maison. Et puis une nuit, il entend appeler Samuel, Samuel. À plusieurs reprises, et il va voir Élie en pensant que c'était lui qui l'appelait, ce qui n'était pas le cas. Et Élie va lui dire, la prochaine fois que tu entends ça, c'est que c'est Dieu qui t'appelle. Et il nous a dit au verset 10, l'Éternel vint et se présenta et appela, comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et donc Dieu commence à lui parler, et au verset 19, il est dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Samuel a pris à cœur l'appel de Dieu, que Dieu lui a dit, et il n'a pas laissé tomber à terre aucune parole de Dieu. Il s'est attaché à entendre de Dieu. Et tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Et l'Éternel continua à apparaître, car il se révéla à Samuel par la parole de l'Éternel. Et ensuite Samuel va être quelqu'un aussi qui va être utilisé par Dieu, qu'il a simplement répondu. Il entend l'appel, il s'abandonne, il répond, il accepte. Néhémie chapitre 2, on va pas voir tout le monde, mais je vous donne quelques exemples comme ça. Peut-être que vous pourrez faire une recherche pour voir comment tous les personnages bibliques ont réagi quand Dieu leur a parlé. Ça pourrait être intéressant. Mais Néhémie chapitre 2, alors Néhémie c'est quelqu'un aussi à qui Dieu a parlé, en lui donnant pour mission de reconstruire la muraille de Jérusalem qui avait été abattue. Et Néhémie va en faire part au peuple. Et au verset 17, donc il leur dit, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Il y a un problème. Mais la victime dirait, ça y est, on est foutu, c'est triste pour nous. Mais lui, Néhémie, il se met en vainqueur et il attire le peuple dans une position de victoire puisqu'il dit « Venez, rebâtissons et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et ils dirent « Levons-nous et bâtissons. » Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Donc là, Néhémie, d'une part, a bien sûr écouté ce que Dieu lui avait dit. Il a obtenu la faveur du roi, l'autorisation de reconstruire. Et ensuite, il va communiquer ça au peuple. Et le peuple va s'y attacher, va dire « Ok, levons-nous et bâtissons. Allons-y. » Et évidemment, ça n'a pas été facile pour eux non plus. Ils ont eu des moqueries, des oppositions. Verset 19, un certain Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur Ammonite et Geshem, l'Arabe, en ayant été informés, se moquèrent. Et nous méprisèrent. Et ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Quand tu choisis de te mettre en vainqueur et de croire ce que Dieu dit, tu vas avoir des gens qui vont te dire, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui te prend? Tu te crois meilleur que les autres? Ça les a pas empêchés, ils ont continué à faire ce qu'ils avaient à faire. Même l'opposition qui peut suivre, il faut demeurer et rester dans cette position de victoire. Pas dire, ouais, c'est vrai, finalement, est-ce que j'ai vraiment raison? Vous savez, des fois, j'ai eu des gens qui ont un peu rigolé à mon sujet, hein, parce que j'ai pris l'habitude, merci Seigneur, de proclamer la parole de Dieu dans ma vie et sur ce que je crois. Et des fois, il y a des gens qui rigolent, qui disent, mais parfois, après, ils sont surpris et c'est moi qui rigole quand Dieu accomplit ce qu'il a dit et que ces gens-là sont surpris. Et on peut avoir des choses comme ça, vous savez, quelqu'un, vous pouvez être avoir des symptômes, par exemple, vous êtes en train de proclamer par ses mains, je suis guéri, je veux dire, mais qu'est-ce que tu racontes, tu vois pas que t'es malade. Ou bien quand tu peux être dans une difficulté et que tu proclames la provision divine, il y a des gens qui rigolent, qui disent, mais attends, qu'est-ce que tu racontes, tu te prends pour qui, qu'est-ce que tu fais là? Quand vous déclarez des choses sur vos enfants ou sur vous-même, il peut y avoir des oppositions, mais vous continuez, le vainqueur il continue. Le peuple a pris à cœur ces choses et dans Néhémie 6:15, quand même, pour avoir la fin de l'histoire, il nous est dit que la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul en 52 jours. Donc ils ont achevé ce qu'ils avaient commencé. Ils ont pris la bonne résolution d'être dans une position de victoire et ils ont achevé ce qu'ils ont commencé. Ésaïe chapitre 6, on a cette vision du prophète Ésaïe. Et au verset 8, il dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Donc là aussi, l'appel de Dieu résonne, il répond, il se soumet, il s'incline, il dit « Me voici, envoie-moi. » Dans Jérémie, chapitre 1, verset 4, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots « Avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Et avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi, prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche et dit « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Donc là aussi, Jérémie, il a commencé par répondre et dire « Moi, je ne sais pas parler et je suis un enfant. » Mais Dieu dit « Non, ne dis pas que tu es un enfant. » Pourtant, il était un enfant. Mais ne dis pas que tu es un enfant. Dis ce que Dieu a dit. Dis ce que je te dis. Tu parleras de ma part parce que j'ai dit que tu parlerais de ma part. Hein? Donc ne disons pas ce que nous sommes ou ce que nous ne sommes pas, ce que nous ne savons pas faire, disons ce que Dieu a dit que nous ferions. Vous savez, moi il y a plusieurs années, j'ai eu l'appel de Dieu assez jeune dans ma vie et je peux vous assurer qu'il y a des moments où je me demandais si c'était pas trompé de personne, parce que comme je l'ai déjà dit d'ailleurs, mais j'étais extrêmement timide, mais je ne me suis pas contenté de dire moi je suis timide, j'oserais jamais parler devant des gens. J'avais fait un petit cahier où j'avais noté des paroles que Dieu m'avait données, soit personnellement ou soit au travers de ses serviteurs, et je lisais ces choses, je les méditais et je les proclamais. Et je les proclamais dans ma chambre quand il n'y avait personne, secrètement, parce que j'avais toujours pas encore le courage de parler aux gens. Mais plutôt que de proclamer que comment je vais faire parce que moi j'ose pas, je proclamais ce que Dieu disait à mon sujet. Et le temps passant, et bien voilà, les choses avancent et ça va, et on entre dans la réalisation de ce que Dieu dit. Hein, donc ne dites pas je suis un enfant, ne dites pas moi je suis une femme, on m'écoutera pas. Ne dites pas « je suis trop petit, je suis trop jeune, je suis trop vieux ». Dites ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit est destiné, j'allais même dire, est condamné à se réaliser. Au sens où c'est irrévocable. Irrévocable. Quand Dieu parle, c'est irrévocable. Sauf si nous opposons l'incrédulité, bien sûr. Luc chapitre 1er, encore l'appel de Marie. Donc, bien sûr, ça nous raconte un petit peu comment la naissance de Jésus allait se passer. Et un ange apparaît à Marie et lui dit « Voilà, tu seras enceinte, tu auras un enfant, tu donneras le nom de Jésus, il sera le Fils de Dieu, il deviendra roi, etc. » Et bon, au verset 34, Marie répond à l'ange « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Et l'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Verset 37, « Rien n'est impossible à Dieu. » Et Marie lui dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon quoi ? Ta parole. » Quand Marie a posé la question, là, elle n'est pas en train de dire « C'est impossible, puisque je ne connais pas d'homme. » Elle dit « Comment cela se fera-t-il ? » Parce que Dieu ne l'avait pas encore révélé comment il allait faire. Et Marie, finalement, elle s'abandonne au plan de Dieu. Elle dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Donc elle s'est rendue disponible à ce que la parole de Dieu se réalise dans sa vie. Et bien sûr, elle est tombée enceinte et elle a enfanté. Jésus, le Fils de Dieu. Et remarquez que souvent dans les exemples qu'on a vus, il est question aussi de parole et de parler. Souvent c'est moi, Moïse, moi je ne sais pas parler, j'ai la langue embarrassée. Jérémie aussi qui dit qu'il ne sait pas parler et qu'il est un enfant. Et souvent quand Dieu nous envoie sa parole, quand Dieu nous parle, et comme ça on dit moi je ne sais pas parler, ou bien ils ne m'écouteront pas, et des choses comme ça. Mais la parole, c'est quelque chose de primordial. C'est une clé, parler. Et même si tu ne sais pas parler, commence à parler la parole. Ce qu'on te demande, c'est pas de dire des belles choses, c'est pas de faire des belles déclarations, c'est simplement de dire ce que Dieu dit, de parler la parole de Dieu. Et dans les circonstances, dans les situations, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on répond à l'appel de Dieu de régner et de manifester le règne de Dieu en parlant sa parole pour qu'elle se réalise? Ou bien est-ce qu'on discute et est-ce qu'on se met dans une position de victime en disant ça peut pas marcher, ça peut pas aller? On doit confesser la parole de Dieu. Confesser la parole de Dieu. Et cette parole se réalisera, elle s'accomplira. Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ? Donc nous sommes appelés à quoi? À régner dans la vie. Or, régner, ça veut dire je prends des décisions, je donne des ordres, je donne les directions. C'est ça le règne. Hein? Et le Seigneur aussi nous dit de prier que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment elle va se faire? À travers nous qui sommes sur la terre. Hein? Et il nous appelle donc à exercer le règne. Et comment est-ce qu'on exerce le règne? En faisant des décrets, en faisant des déclarations. On décrète, quand le roi dit quelque chose, ça doit s'accomplir. Donc nous avons besoin de régner, de décréter des choses dans notre vie pour exercer le règne de Dieu. Et que devant nos situations, eh bien, on n'est pas en train de dire « mince, qu'est-ce que je vais devenir ?» ou « je ne sais pas quoi faire », on se positionne et on commence à faire des décrets. Des décrets. Mais ces décrets-là, ils ne viennent pas de nous-mêmes, ce sont les décrets royaux, les décrets du roi des cieux et de la terre, les décrets de notre Dieu qui sont ici. Et on commence à décréter ce qu'il a dit à notre sujet et ce qu'il dit au sujet de nos situations. Et vous allez voir que ça va changer les choses. Si vous vous positionnez en vainqueur, je ne dis pas que vous n'aurez plus jamais de problème dans la vie, mais c'est justement dans les problèmes qu'on a l'occasion de se positionner en vainqueur et de manifester la victoire de Dieu. Donc renoncez à cet état d'esprit et cette position de victime. Les gens qui croient gagner quelque chose en restant des victimes, ils ne réalisent pas combien ils sont loin, très loin. De la joie, de la puissance, du bonheur qu'on trouve lorsqu'on est réellement dans cette démarche de vainqueur. Parce que la victoire est déjà accomplie. C'est Christ qui a combattu, qui a remporté la victoire, et nous avons juste à nous y positionner. Alors, encore une parole dans Psaume 68, qui nous dit: ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre qu'il nous donne. Il ordonne que tu sois puissant. Donc Dieu est puissant, ça il n'y a pas de problème. Mais après il nous donne l'ordre d'être puissant. C'est un ordre. Et laissez-moi vous dire que quand quelqu'un donne un ordre, normalement il doit être exécuté. Hein? Et si Dieu donne des ordres à notre sujet, nous devons entrer dans la réalisation de ces ordres. Et s'il ordonne que nous soyons puissants, ça veut dire que nous pouvons être puissants, qu'il nous a qualifiés pour être puissants, qu'il nous a donné les éléments pour être puissants. Et il ordonne que tu sois puissant. Donc quand tu es dans un problème, dans une situation, oui, bon, d'accord, Dieu est bon, Dieu est compatissant, tout ce que tu veux. Mais bien souvent, on a l'impression qu'on va venir pleurer dans ses épaules. Alors, ça peut arriver par moments, mais il y a un moment où Dieu ne va pas te dire, mon pauvre petit, oh là là, je vais faire quelque chose pour toi. Dieu va te dire, sois puissant. Parce que c'est lui qui nous a établis sur la terre avec son autorité et nous devons entrer dans les choses qu'il a préparées pour nous. Psaume 68, 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. C'est-à-dire que Dieu fait des choses pour nous. Mais après, il nous dit, sois puissant. Ça veut dire, fortifie-toi dans ce que j'ai accompli pour toi. Et toi, maintenant, sois puissant. Donc, il y a un moment, bien sûr, Dieu est fidèle et on peut prier, lui demander des choses et il va nous les donner parce qu'il est bon et qu'on a besoin de faire des progrès. Mais il y a un moment aussi où Dieu nous dit, sois puissant. C'est-à-dire, toi-même, c'est pas débrouille-toi, c'est prends ce que j'ai déjà fait pour toi, reçois-le et sois puissant.
Jésus. En plus, ça va illustrer ce que je viens de dire.
Voilà. Là, je le fais parce qu'il a 3 ans, qu'il est petit, qu'il ne peut pas se débrouiller tout seul. Quand il aura 7 ans et qu'il vient, je vais lui dire « Sois puissant ». Autrement dit, tu peux le faire, fais-le. De la même façon, Dieu, quand tu viens avec ton petit problème, ben, à un moment, oui, il résout ton problème. Parce qu'il est bon, parce qu'il est amour et parce que tu es encore petit, tu es encore un bébé ou un enfant spirituel, il est bon pour toi, il le fait. Mais quand tu grandis maintenant, tu viens avec ton petit problème, il va te dire « Sois puissant ». Parce que là-dedans, je t'ai mis tout ce que tu as besoin. Et parce que maintenant, tu me connais suffisamment, je t'ai suffisamment montré, maintenant, toi, sois puissant. C'est exactement ça. On a besoin de se mettre en vainqueur. Tu sais, des fois, les gens disent, ouais, mais pourquoi Dieu ne me secourt pas? C'est bizarre. Il y a 10 ans, quand je priais, Seigneur, s'il te plaît, fais ça pour moi, il le faisait tout de suite. Aujourd'hui, j'ai le même problème, je prie, il le fait pas. Pourquoi il le fait pas? Parce qu'aujourd'hui, il faut que tu sois puissant. On a besoin de grandir. On a besoin de se responsabiliser. On peut pas rester des petits bébés. Vous savez quoi? Dieu veut établir son règne sur la terre, si vous n'en êtes pas encore conscient. Mais comment quelqu'un peut-il établir son règne avec des bébés? Où il doit finalement tout faire lui-même? C'est pas possible. Enfin si, c'est possible, tout est possible à Dieu. Mais Dieu a choisi d'établir son règne à travers son peuple, ses fils et ses filles. Et pour ça, il nous dit, sois puissant, je te donne les clés, je te donne les ressources, je te donne les enseignements, je te donne tout ce que tu as besoin, et toi maintenant, sois puissant. Pour qu'à un moment donné, toi-même, tu sois stable, ferme, et que tu sois pour d'autres une source d'inspiration, une source de bénédiction, et que tu puisses aussi porter la bénédiction de Dieu à côté. Hein, et qu'on ne soit pas tous en train d'essayer de survivre ensemble, mais qu'on puisse être pleinement dans la vie de Dieu, et être puissant, et gérer les choses, et prendre autorité, et prendre des décisions dans nos vies, et déclarer des choses qui vont amener la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Et de notre positionnement, l'avenir va dépendre. L'avenir va dépendre. Vous pouvez chercher dans la Bible. Dieu dit des choses au sujet de n'importe quelle situation. Et aujourd'hui, il te dit, sois puissant. C'est-à-dire, prends ce que j'ai dit et vas-y. Libère ma parole, parle et vois la réalisation de ce que j'ai fait pour toi. S'il y a des symptômes, eh bien, tu proclames les paroles de guérison de Dieu. S'il y a des difficultés, tu proclames la provision de Dieu. S'il y a de l'échec, qu'est-ce que tu fais? Tu continues de proclamer que celui qui marche avec Dieu est destiné à réussir, que tout ce que celui qui passe son temps dans la parole réussit dans ce qu'il fait, bah, tu continues de proclamer. Même s'il y a un échec, tu continues, jusqu'à temps que tu réussisses. Tu te laisses pas abattre. C'est ça qui fait la force des gens. Et de votre positionnement va dépendre l'avenir. L'issue de la situation, elle est entre nos mains. Et la Bible déclare dans 1 Jean 4, verset 5, que la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Bien sûr que Christ a accompli la victoire un jour, mais aujourd'hui, triompher du monde se fait comment? Par notre foi. Et notre foi se manifeste comment? En croyant du cœur, en confessant de la bouche. Donc ce que tu dis, les décrets que tu fais, le règne de Dieu que tu établis sur la terre, c'est la victoire qui triomphe du monde. Et 2 Corinthiens 2, 14 déclare qu'il nous fait toujours triompher. En Christ, toujours, il a accompli la victoire pour que maintenant nous soyons toujours dans la victoire. Et finalement, Romains 8, et vous pourrez lire ça, moi j'aime tout le chapitre, mais qui déclare entre autres qu'il nous a rendus plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est lui qui a combattu, c'est lui qui a tout accompli, mais c'est moi qui suis dans la victoire. Alors maintenant, vous avez suffisamment d'éléments entre vos mains pour choisir victime ou vainqueur. Devant une situation, victime ou vainqueur? Quand les problèmes font rage, victime ou vainqueur? Quand j'entends des mauvaises nouvelles, quand je vois ce qui se passe autour de moi, victime ou vainqueur? Ça, c'est entre tes mains. C'est entre tes mains. Amen. Alors, Père, merci pour cette parole ce matin que tu nous as envoyée. Père, je crois qu'elle est puissante, qu'elle est efficace, qu'elle fait effet, qu'elle agit. Seigneur, sur chacun de mes bien-aimés et sur moi-même, parce que tu n'envoies jamais une parole par hasard. Et je te loue, Seigneur, parce que tu nous as pas juste laissé là à être là et puis attendre que les choses se passent et à peut-être espérer des choses, mais Seigneur, tu nous donnes des clés. Et merci parce qu'on n'a pas besoin comme les gens de ce monde et comme les gens peut-être qui sont autour de nous, d'être abattus, d'être secoués, d'être perdus même quand on a des situations difficiles. Mais tu nous as donné cette force, cette autorité et cette capacité de nous tenir fermes et de choisir victime ou vainqueur. Et pour ma part, ce matin, je veux le déclarer. Je veux le déclarer pour moi-même, je veux le déclarer devant les bien-aimés qui sont là, et je veux le déclarer devant le monde spirituel aussi. Je décide et je me maintiens dans ma décision d'être vainqueur. Et je refuse d'être une victime. Je refuse les mentalités pourries qui peuvent excuser certaines choses peut-être qui ne fonctionnent pas. Je décide d'être vainqueur. Et je prends le parti de croire la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur et Père pour chacun de mes bien-aimés ici présents ce matin. Et même ceux qui écouteront ce message, Père, je déclare maintenant que dans leur vie, tu viennes, Seigneur, faire un impact avec cette parole, afin qu'ils puissent décider et qu'ils soient fortifiés, motivés, boostés dans leur foi, et qu'ils décident qu'à partir d'aujourd'hui, ils sont vainqueurs et plus jamais victimes. Et je prie, Père, que dans les situations que certains peut-être traversent aujourd'hui, en ce moment même, merci, Père, parce que l'issue n'est pas hasardeuse, l'issue n'est pas une grande inconnue, mais l'issue est dans leurs mains, parce qu'en fonction de leur positionnement qu'ils vont prendre aujourd'hui et des paroles qui vont sortir de leur bouche à partir de ce jour, l'issue va être déterminée. Et merci Père parce que nous avons choisi de déclarer ta parole, nous avons choisi de dire ce que tu dis et ce que tu dis se réalise. Père, merci. Gloire te soit rendue, Seigneur. Je vais vous donner l'occasion ce matin de manifester aussi votre foi. Donc si vous voulez prendre l'occasion de dire non, je veux être vainqueur, je prends cette décision ce matin, peut-être manifestez-le, juste vous mettez debout à votre place. Et c'est pas un appel, c'est une prise de position. Et prenons position ce matin et déclarons ensemble certaines choses. Faites-le librement. Vous savez, des fois, il faut agir sur la parole. C'est bon, c'est agréable à Dieu et ça assied les choses. Alors, commencez à déclarer des choses. Commencez à déclarer que vous choisissez la victoire. Commencez à déclarer que plus jamais vous n'accepterez de rester une victime. Commencez à déclarer que vous avez une ferme résolution de voir les plans de Dieu réalisés dans votre vie. Je propose qu'on fasse cette déclaration ensemble. On va déclarer ensemble. Je crois que la parole de Dieu est vivante, inspirée, elle est vraie et elle est efficace. Je reçois ce message et je décide fermement. Je suis vainqueur. Je ne serai plus une victime. Dans toute situation, je déclare la victoire de Christ. Rien ni personne ne peut me faire chanceler. Rien ni personne ne peut me troubler. Rien ni personne ne peut voler ma paix. Je suis en Christ. Je suis vainqueur et plus que vainqueur. Je me décharge de tout fardeau sur celui qui a déjà payé. Et je tiens ferme dans la victoire qui m'a été acquise. Satan et tes petits copains, vous pouvez toujours vous agiter. Je suis vainqueur. Et je renonce aujourd'hui à la défaite, au pessimisme, aux impossibilités, aux limitations. Mais j'adopte le point de vue de Dieu, le regard de Dieu, le langage de Dieu et le comportement de Dieu. Et je ne serai plus la même personne. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Béni sois-tu Père. Déclare que ces paroles maintenant sont inscrites dans nos cœurs. Elles sont scellées. Merci pour ta gloire Seigneur qui vient attester ces choses. C'est vrai dans nos rencontres mais aussi dans chacune de nos vies. Merci Père parce que nous allons tenir ferme aussi contre l'opposition. Quand les gens vont commencer à se demander pour qui nous nous prenons, quand les gens vont commencer même à peut-être chercher à nous lapider, nous savons, Papa, que nous croyons en toi et ta gloire sera manifestée parce que nous savons en qui nous avons cru. Nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Amen.